Je vous remercie de votre patience. Donc, on va continuer notre après-midi consacré à la machine denticitaire avec la conférence de Yanis Bitsakis, que je remercie encore d'avoir fait le voyage pour ce projet-là. Donc, Yanis est chercheur à l'Université d'Athènes et membre du projet d'études sur la machine denticitaire, dont il va vous parler plus avant. Merci.
Ah ben, c'est allé vite. Ici, hein, d'accord. Alors, bonsoir, merci d'être venu. Alors, ça tombe bien avec tout ce qui est venu avant, donc la présentation donc, des collèges et aussi le spectacle au planétarium. Ça m'épargne pas mal de choses. Je voulais tas de choses que je voulais dire et qui ont déjà été dites, c'est super, et d'une manière magnifique, donc tout ce qui est par rapport aux planètes et à des connaissances antiques. Mais quand même, je considère qu'il y a des gens qui ne connaissent pas toute l'histoire, donc si vous êtes d'accord, je vais partir presque à zéro. Déjà par vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Anticitère. Alors Anticitère, c'est une île. Voilà, la toute petite île, ici, entre le sud du Péloponnèse et la Crète, au sud de Cythère, donc c'est en face de Cythère, Anticitère. Et c'est une île qui est toujours d'ailleurs sur le passage est-ouest et inversement. En 1900, sur ce passage, il y avait des pêcheurs d'éponges. Vous voyez à droite une photo de pêcheurs d'éponges plus ou moins d'époque de l'île de Kalymnos, la photo. Et ici, en fait, c'est une photo de Floride, où il y a des pêcheurs qui ont émigré dans le courant du XXe siècle en Floride. Mais c'est à peu près la même chose qu'en 1900, où des pêcheurs de l'île de Simi, qui est donc entre le Rhodes et la Turquie, commençaient leur voyage au printemps 1900 pour aller sur les côtes d'Afrique du Nord pour pêcher les éponges. Et ils ont été bloqués par une tempête du côté de l'île, sur les côtes de l'île d'Anticitère. Et au matin, ils ont plongé, peut-être pour trouver des éponges ou alors à manger. Et ils tombent sur un trésor. Le plongeur, le premier qui a plongé, a cru voir des noyés. Il est ressorti terrifié en disant aux autres, je vois des corps. En fait, c'était des statues de bronze et en marbre, des dizaines de statues. Alors, ils emportent, en fait, ils cassent le bras d'une statue en bronze, ils l'emportent avec eux dans leur périple toute la saison, tout l'été, en Afrique du Nord. Et en revenant à l'automne, à Simi, ils contactent le gouvernement grec à Athènes, qui, branle-bas de combat, organise une énorme expédition avec des navires de guerre. Alors, voici une photo de l'hiver 1900-1901. Donc au fond, vous voyez l'île d'Anticitère, au fond à droite. Et sur le bateau, le Mycale, il y a donc les marins, il y a les officiels du ministère de l'Éducation, qui étaient en charge aussi de la culture. Et à droite, là sur le bastingage, il y a les pêcheurs d'éponges, quelques-uns des pêcheurs d'éponges. Il y en a deux qui sont morts dans cette histoire, parce qu'ils plongeaient avec des systèmes assez archaïques. Et d'autres qui sont restés paralysés pour la vie. Et au premier plan, les palans remontent une statue. En fait, c'est un morceau de cheval que vous pouvez voir dans l'atrium au musée national à Athènes. Alors, pendant tout l'hiver 1900-1901 et jusqu'en septembre 1901, il y a plusieurs expéditions sur l'île d'Anticitère et des centaines d'objets qui sont remontés et qui rejoignent le musée d'Athènes. Vous voyez ici en vrac les statues de marbre. Et là, c'est une photo actuelle de l'atrium. Et voilà une autre photo très intéressante, parce qu'en fait, il y avait certaines pièces où on rassemblait par similitude les objets et par date de repêchage. Alors, ici, il y a des objets en bronze, évidemment corrodés, qui avaient passé 2000 ans au fond de la mer. Ce naufrage, c'était probablement un navire romain, qui avait une grande cargaison très riche, qui remontait vers Rome avec donc des objets de luxe. Et là, les archéologues ont regroupé des objets de bronze et essayé de reconstituer une statue qui, depuis 1901, est très, très connue mondialement. C'est celle de l'éphèbe d'Anticitère. Donc, vous voyez des bras, des pieds. Il y a une harpe, une lyre plutôt, au fond, et ainsi de suite. Et donc, un jour, en mai 1902, l'ex-ministre de l'Éducation, qui avait organisé toute l'expédition à Anticythère, cherchait des morceaux donc, de Lefebvre dans cette salle, et tombe sur un morceau à peu près de cette taille, qui en fait s'était scindé en deux ou trois morceaux qui étaient séchés, donc, et remarque, c'était du bronze, donc, mais ce ne pouvait pas être un morceau de statue, car il y avait non seulement des inscriptions dessus, de toutes petites inscriptions, mais il y avait aussi des bouts de roues dentées, des engrenages. Pas d'engrenages dans les statues. Branle-bas de combat, la presse... voilà donc à gauche Lefebvre et son compagnon le philosophe, une autre statue illustre. Et donc voilà le branle-bas de combat, le 23 mai 1902, 23 mai du calendrier julien, la plaque avec les inscriptions d'Anticythère. Qu'est-ce donc? Et voilà, vous voyez ici les premières lignes d'une transcription de ces caractères lus par le ministre de l'Éducation. Ici, en quatrième ligne, vous voyez Afro, c'est en fait les premières lettres de Aphrodite, de Vénus, donc. Et la dernière ligne, Ilios, le soleil, et Actina, le rayon, donc le rayon de soleil. Et puis, d'autres caractères ont apparu petit à petit, mais tout de suite, les archéologues se sont dit, c'est une machine astronomique qui est sortie de l'eau. Alors, quel genre de machine? Et ils n'en savaient rien. Je vous montre un peu, ça c'est l'état actuel de la machine, 82 fragments. Donc on est parti d'un seul fragment au début, qui s'est scindé en trois fragments, et puis les conservateurs ont commencé, dès 1902, mais après, jusqu'en 1930, et puis avec la guerre, tout a été enfoui pour échapper aux bombardements et aux vols allemands. Et dans les années 50, la conservation a reparti. Finalement, dans les années 70, on est arrivé à avoir ces 82 fragments. Alors voilà donc une des photos du très début. Vous voyez un peu comment c'est, ça n'a rien à voir. Regardez très bien là ce fragment, je reviens en arrière. C'est celui-ci vu de l'autre côté. Alors on aura l'occasion de le revoir plus tard, car il est très important. Les archéologues et d'autres spécialistes qui arrivèrent à Athènes un peu de tout le monde, de toutes les parties du monde, commencèrent à se chamailler parce qu'il y avait la moitié qui disait c'est un astrolabe et l'autre moitié qui disait ça ne peut pas être un astrolabe. C'est quelque chose de plus complexe. Un de ceux, c'est le philologue allemand que vous voyez ici, Albert Trem, qui disait non, ce n'est pas un astrolabe, et vous allez voir après. À quoi pensait-il? Alors, une des pistes des inscriptions provient de ce fragment. Et ici, on verra plus tard, sur une photo actuelle, trois nombres qui ont aidé à trouver la solution du mystère pour cette machine. Voilà, issu du carnet d'Albert Trem, qui est conservé à la bibliothèque de Munich, une transcription... une des premières transcriptions des inscriptions qui a été perdue après, pendant des dizaines d'années. Et là, j'y pensais tout à l'heure dans le planétarium, il y a encore une fois le soleil ici, et puis sur cette ligne, il y a un mot qui se rapporte, je pense, étiez-vous tous là à côté dans le planétarium? Non, d'accord. Alors, il y a un mot qui se rapporte au mouvement apparent des planètes, tel qu'on le voit à partir de la Terre. Les planètes, qui sont donc des étoiles vagabondes, ces planètes étant l'adjectif grec pour vagabond, ont des mouvements apparents par rapport au reste des étoiles. Elles vont dans un sens et puis elles rebroussent chemin. Et le moment où elles rebroussent chemin, ce point-là, est noté ici. C'est le point, le stérigmos, le point... Alors je ne me souviens plus comment ça se dit en français, mais ça va me revenir, on en reparlera plus tard. Donc, avec ces éléments, vous voyez ici le mot épicycle, qui est un mot allemand, mais c'est un mot épicycle en français, ou épicyclos, c'est le même mot en grec. C'est un système antique, on l'a entendu tout à l'heure, qui sert à modéliser ce mouvement des planètes. Et donc Albert Trem était convaincu que cet objet était un planétarium. Vous voyez ici le mot. Il a envoyé à Athènes, à l'école archéologique, une longue intervention qui a été lue par les archéologues allemands à Athènes sur le planétarium. Et puis Albert Trem s'occupe d'autre chose. Il a été pris dans les tourmentes en Allemagne. Et malheureusement, il n'a pas pu continuer les recherches. Plus tard, dans les années 30, un des amiraux de la marine royale grecque qui avait pris part donc, à toute l'expédition, quelqu'un de très spécial, très riche aussi, consacre une partie de sa fortune à étudier la machine d'Anticythère. Il fait des conférences un peu partout dans le monde et il construit le premier modèle de la machine d'Anticythère, le dernier étant celui qui est exposé là-haut, qui a été fait par les collèges de la région. Alors, et c'est assez émouvant parce que ce modèle est, en fait était perdu, on n'en savait rien. Il en avait parlé à l'Académie des sciences et nous l'avons découvert avec son petit-fils qui apporte le même nom, qui est aussi amiral des forces spéciales. Et voilà, c'est juste, nous avons pris cette photo quand il sortait le premier modèle d'Anticythère d'une boîte qui était dans le grenier du grand-père. Alors vous voyez la roue caractéristique, qui est le symbole d'Anticythère, et que nous reverrons tout au long de... Voilà, la revoilà. Alors, cette image, très importante, c'est en fait la première radiographie qui a été faite au centre de recherche nucléaire à Athènes par le physicien grec Haralambos Karakalos, et qui a été étudiée par... une personne très importante que vous voyez ici, l'historien des sciences et physicien Derek de Sola Price. Juste pour l'histoire, la moitié des archives de Price se trouve en France, à la Cité des sciences, et l'autre moitié à l'observatoire Adler de Chicago. Une grande partie des archives porte sur l'étude de la machine d'Anticythère. Price a étudié la machine d'Anticythère à partir des années 50. En 1959, il fait la une du Scientific American, traduction française pour la science, avec le titre, le mot ordinateur, mais ce n'est pas une bonne traduction, un ordinateur grec de 2000 ans. Il avait compris donc que cette machine était une machine à calculer, plus complexe encore qu'un simple planétarium peut-être. Et il a continué donc les recherches. Il a eu la chance de collaborer avec Karakalos à la fin des années 60, et ils ont pu ensemble étudier ces radiographies, et ils se sont mis à compter en fait le nombre de dents qu'il y avait dans chaque roue dentée. Parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que on voyait des bouts de roues dentées à l'œil nu, donc dès le début dans la découverte avec les statues et tout ça. Mais en fait, beaucoup plus de roues dentées étaient cachées dans les fragments eux-mêmes avec toutes les concrétions marines et pendant 2000 ans. Et il fallait passer la machine au rayon X pour voir le détail. Il y a donc une trentaine de roues dentées. Et en ayant en tête qu'il s'agissait d'une machine qui représentait des phénomènes astronomiques, avec donc des périodes connues dès l'Antiquité, on a entendu des chiffres tout à l'heure dans le planétarium, par exemple 260 pour jours pour Vénus, qui revient à chaque fois à la même phase. Ces chiffres-là étaient connus par les civilisations de la Mésopotamie, donc longtemps avant les Grecs aussi. Derek Price a essayé de comprendre quel genre de phénomène cette machine représentait. Alors, il a fait aussi... Il a fabriqué lui aussi des modèles, donc voilà un deuxième modèle de la machine. Je pense que c'est aussi le deuxième modèle chronologiquement après le modèle de l'amiral Théophanides. Un modèle en carton qu'il emportait avec lui dans les conférences pour expliquer le fonctionnement de la machine. Et vous voyez ici, ça c'est les fragments survivants, et évidemment il complétait les fragments parce qu'il imaginait, et d'ailleurs il avait raison, la suite, avec des inscriptions. Parce qu'il faut dire aussi que tout au long de ces décennies, les épigraphistes, donc les spécialistes de lecture des textes anciens, lisait, continuait à lire ce qui était écrit sur la machine, et au fur et à mesure que les gros fragments devenaient plus petits avec les différentes couches qui étaient retirées par les conservateurs, il y avait de nouvelles inscriptions qui apparaissaient. Donc vous voyez ici, il y a pas mal de lignes, de nouvelles lignes qui étaient apparues. Et donc il arrive en 1974 et il écrit ce magnifique opuscule qui est réédité, et là il est vendu par milliers par Amazon, donc Gears from the Greeks, l'engrenage des Grecs, le mécanisme denticitaire, une machine à calculer calendaire d'environ 80 avant Jésus-Christ. Alors ici, voilà, voici une date. Alors, en fait, aux environs de 80 avant Jésus-Christ, ou plutôt un peu plus tard, aux environs de 60 avant Jésus-Christ, il y a le naufrage d'Anticitaire. Et ça, on le sait surtout grâce à des monnaies, des pièces de monnaie qui ont été retrouvées lors d'une troisième expédition à Anticitaire. La première, c'était les pêcheurs d'éponges tout seul, puis celle avec la marine royale, et puis le commandant Cousteau fait un passage dans les années 50, il voit un peu la position du naufrage et il revient en 1976 avec toute son équipe. En fait, c'est l'équipe qui plongeait, pas le commandant Cousteau. Lui, il était là pour les photos. Et il découvre des pièces de monnaie et d'autres petites statues et d'autres objets, en fait. Ces pièces de monnaie ont servi à dater le naufrage d'environ 60 avant Jésus-Christ. Alors, je reste un peu ici sur ce livre. Donc, Price avait compris l'essentiel, en fait, qu'il s'agissait d'une machine à calculer des phénomènes astronomiques en fonction des calendriers antiques. Mais, et voilà, il a construit aussi, à l'aide de techniciens spécialisés et d'horlogers, un modèle qui est exposé à Athènes au musée archéologique, un autre est à Thessalonique, mais qui n'a jamais fonctionné, en fait. Vous pourrez voir tout à l'heure que le modèle fabriqué par les collèges ici fonctionne bien. C'est parce qu'en fait, entre Price et 2008, disons, il y a eu des recherches, toute une série de recherches, qui ont permis de construire une image de la machine, un modèle qui pouvait réellement fonctionner. Donc avec des fonctions correctes et des roues dentées qui s'engrenaient d'une bonne façon. Price avait vu juste sur la fonction de la machine, et son livre est absolument extraordinaire, on le lit, on le relit, mais il était tombé dans plusieurs impasses et il n'avait pas pu trouver le détail des trains d'engrenage. Alors, en fait, c'est dans les années 80 où essentiellement notre ami Michael Wright a commencé à déconstruire le modèle de Price et à proposer des modèles alternatifs en fabriquant aussi un modèle que vous voyez ici, son premier modèle, avec des outils similaires aux outils antiques. Pas les mêmes, évidemment, et pas les mêmes métaux, mais avec un état d'esprit similaire. Et donc, voilà les deux modèles de Price et de Wright côte à côte. Je veux simplement vous faire remarquer une différence essentielle. À gauche, vous avez des cercles concentriques, deux ensembles de cercles concentriques. Et à droite, vous avez deux spirales. Alors, Michael Wright a présenté ce modèle en 2005 quand notre équipe commençait l'étude des fragments d'Anticitaire. Et nous lui avons demandé, mais Michael, pourquoi tu as mis des spirales, puisque c'est des cercles concentrés, qu'il a dit, ah non, j'ai mesuré, parce qu'il avait aussi des radios, j'ai bien mesuré et j'ai vu que ce ne pouvait pas être des cercles concentriques. Il s'agit d'une spire d'Archimède. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Mais je suis certain. Ok, on avait noté ça. Et entre autres différences, alors voilà l'équipe dont je fais partie, qui depuis 2005 a grossi considérablement, rejointe par plusieurs historiens des sciences, archéologues et épigraphistes, mais je passe là-dessus. Et voilà quelques échantillons des données On a environ 1 téraoctet de données. Il y a un scanner d'une tonne spécialement construit pour l'étude de la machine dentistère qui est arrivé à Athènes, de Grande-Bretagne. Et donc, on a scanné les 82 fragments. On a pu voir des détails avec une précision énorme et on a découvert, et c'était la grande surprise, des centaines de nouveaux caractères d'inscription qui étaient en sandwich, prises en sandwich 2000 ans sous la mer, que personne n'avait vu auparavant. Alors vous voyez ici, par exemple, un élément goupille que M. Robuchon me corrige hein, si je me trompe sur le terme mécanique, ou alors une roue dentée. Alors cette roue dentée, on en reparlera à la fin, pour la suite. Un symbole étrange, comme ça, genre hiéroglyphe, on en reparlera. Revoici l'image du début, le fragment avec les trois nombres, et ainsi de suite. Alors, qui dit scanner, dit image en 3D, on en verra une après, et aussi coupe successive de quelques microns de profondeur. Alors ici, sur cette vidéo, on va avancer dans le fragment principal, celui avec la croix, et voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce fragment. Clic. Ça n'avance pas. On va peut-être y aller à la main. Ouais. Alors juste. Alors, le répertoire est sur le... Oui. Ici, MF. MF ?
Non, AA.
Ah, c'est toujours AA. Alors voilà, oui. Excusez-moi. Alors. Voilà. Donc voici la croix caractéristique que vous pouvez voir à la une d'ailleurs. Et 223 à 224 dents tout autour. Et puis là, c'est l'invisible. On est à l'intérieur du fragment. Et vous voyez, il y en a presque 30 de roues dentées là dans ce fragment. Nous passons de l'autre côté. Voilà d'autres. Et alors ces deux-là, on en reparlera. Ceux qui étaient à la présentation des collèges tout à l'heure, voilà. Donc, il y a du monde, hein, comme on dit. Alors. Et le voilà en 3D, donc fausse couleur bien sûr. Ici, je vais en parler tout de suite. Là, regardez cette. Donc, revoici la grande roue, vue par arrière, et les deux autres deux paires de roues en sandwich. Alors. Donc, hop, deuxième vidéo. Alors, avec toutes ces données, en 2006 et 2008, nous avons pu publier deux articles dans la revue Nature qui ont en fait clos la discussion qui avait commencé en 1902 sur les fonctions de la machine, enfin du moins les fonctions de la face arrière de la machine et certaines des fonctions de la face avant. Car la machine a deux faces. Et voilà la reconstitution de la machine. Ben non, c'est... Alors, ça, c'est un objet en plastique, véritable, mais qui s'apparente assez bien à Antistère. C'est un planétarium de poche que vous pouvez acheter un peu partout et en ligne aussi. Mais moi, je l'ai mise ici parce qu'en fait, ça sert un peu à la même chose. Vous voyez, il y a un calendrier tout autour. Vous pouvez, en attrapant la couverture en plexiglas, faire tourner et choisir une date. Et là, toutes les planètes tournent. Un peu comme dans le planétarium tout à l'heure. C'est la logique d'Antistère aussi. On choisit une date et on voit des phénomènes astronomiques à la date donnée. Ou alors, on peut chercher une configuration des planètes, par exemple, et on voit à quelle date elle se produira. Alors, voilà l'intérieur de la machine. Alors, est-ce la machine en plastique ou celle d'Antistère ? Non. Alors, c'est Antistère. Et on a toujours ce problème. Quand on regarde les roues dentées, on ne sait plus à quelle époque on se trouve. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des personnes qui sont sceptiques et qui se disent que cet objet ne peut pas dater du 1er siècle avant notre ère. C'est une bonne question. Et alors voici donc l'état de nos connaissances en 2008. Je vais vous dire ce qui a changé depuis 2008. En fait, ce qui était tout au début avec la présentation des collèges ont dû avoir des éléments de réponse. Alors, un instant, il repart à toute vitesse. Cet endroit ici, c'est ce que je vais vous montrer sur l'image en 3D, c'est de là où naît le mouvement. Donc, vous attrapez cette roue dentée à 48 dents, vous ne l'attrapez pas directement, mais il devait y avoir soit un bouton ou alors une manivelle, pourquoi pas. Et le mouvement est transmis à la grande roue. La grande roue, celle qui a 223 ou 224 dents, et par des trains d'engrenage successifs, arrive jusqu'au cadran de la face arrière en bas ou de la face avant, en haut, ici, sur cette image. Et vous avez plusieurs systèmes calendaires et indications astronomiques que nous allons les voir ici sur un modèle de l'image. Donc, il y a la Lune, le Soleil, évidemment, les calendriers. Donc, à gauche, c'est la face avant, à droite, la face arrière, et sur le côté, il y a la manivelle, ici, une manivelle. Alors, l'Olympiade, on en reparlera tout à l'heure, un texte astronomique, un almanach astronomique qui s'appelle le Parapegme, et, point d'interrogation en 2008, mais plus maintenant, les cinq planètes. Et il y a aussi des inscriptions. Donc, la machine était fermée de cette façon, avec une plaque avant. Et vous voyez à gauche une petite partie de cette plaque, le fragment G, le seul qui reste de cette plaque. Et c'est sur cette plaque, qui est en fait reconstituée de plusieurs petits fragments, qu'Albert Rehm avait lu en 1905 le mot se rapportant au mouvement des planètes, au mouvement apparent des planètes. Et ici, en fait, nous avons lu, l'année dernière et l'année d'avant, à l'époque où était tourné le documentaire d'Arte, nous avons pu déchiffrer plusieurs nombres se rapportant à des périodes planétaires. C'est donc une des indications majeures qui plaide en la faveur des fonctions des planétariums. Donc Albert Rehm avait raison. Il y avait un planétarium sur la machine d'Antécitère. Mais ce n'était pas seulement un planétarium. Puis, ici, en haut et en bas, et voici un des fragments correspondants, il y a cet almanach astronomique. Ce sont en fait les observations très connues de tout le monde dans l'Antiquité. Alors tout le monde, non seulement les astronomes, mais les bergers, les marins, des premiers levers et des derniers couchers de constellations et d'astres, donc qui rythmaient en fait les saisons, l'apparition du printemps, l'été, les moissons, etc. Et ces phénomènes, ces observations sont classés avec un index alphabétique, avec deux alphabets, en fait, parce qu'il y a 24 lettres ne sont pas suffisantes, donc il y en a beaucoup plus. Et ces petites lettres, ces index, alpha, bêta, gamma, etc., sont rapportés. Alors, ici, il y a deux cercles concentriques, l'un étant, alors vous voyez à gauche, ici, donc, le zodiaque, le cercle du zodiaque, et sur le cercle du zodiaque, on retrouve ces petites lettres, alpha, bêta, gamma, etc. Donc, on peut savoir, en voyant ici, en lisant les lignes, quand est-ce que se produit un phénomène donné. Donc, on est à une certaine date. Par exemple, on est au 15e degré de la Vierge, et on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans le ciel, dans cette partie du ciel, et à l'époque donnée. Alors, l'époque, c'est quoi? C'est le calendrier qui est juste au-dessus, qui est le calendrier solaire égyptien. Égyptien, pourquoi égyptien? Parce qu'en fait, l'Égypte était le grand centre des astronomes de l'époque hellénistique, à Alexandrie, avec la bibliothèque. Et c'est un calendrier qui a été utilisé par les astronomes, jusqu'à Copernic, via la grande syntaxe mathématique de Ptolémée, avec lesquels les astronomes calculaient les phénomènes astronomiques pendant des siècles. Donc, sur la face avant, vous avez la date et la position dans le zodiaque et les listes des objets. Et au centre, vous avez la Lune, le Soleil et les cinq planètes, autres planètes connues à l'époque, qui tournent autour donc du zodiaque. Donc vous pouvez avoir à tout moment, en tournant le bouton, la position de ces étoiles, de ces planètes. Alors, de l'autre côté, ça se corse, car en fait, nous sommes à une époque où il y a de gros problèmes de calendrier. D'ailleurs, on a toujours des problèmes de calendrier. Il suffit d'aller voir sur les banques qui font parfois des 35 décembre pour clore leur table. Il y a des dates comme ça. Notre calendrier n'est pas très simple, mais à l'époque, c'était encore c'était pire, parce qu'en fait, les mois étaient des mois lunaires, ce qui est logique, c'est la période la plus apparente qui saute aux yeux quand vous observez le ciel, donc de 29 jours et demi, de pleine lune à pleine lune, ou si vous préférez, de nouvelle lune à nouvelle lune. La nouvelle lune est plus facile à voir dans le ciel que la pleine lune, parce que c'est juste au moment où il y a le commencement du croissant. Donc cette période a donné naissance à nos mois, en fait. Mais à l'époque, les mois étaient donc des mois lunaires, on les appelle des mois synodiques. Mais évidemment, l'année qui rythme notre vie, et surtout dans l'hémisphère nord et les zones tempérées, c'est l'année solaire normale, donc de printemps à printemps, par exemple, d'équinoxe à équinoxe, qui a 365 jours et quelques. Et si vous avez des mois qui font 29 jours, 5, vous ne pourrez jamais avoir un nombre entier de mois dans une année. Ce qui donne lieu à des décalages énormes, il faut rajouter des jours, ça ne se passe pas très facilement. Et le problème, on le connaît aussi de nos jours, avec le calcul de la date de Pâques. Parce que le calcul de la date de Pâques est basé sur un calendrier lunaire. C'est pour ça que Pâques ne tombe jamais à la même date dans le calendrier, qui est un calendrier fixe par rapport à l'année, dirait-on, normale. Alors, c'était très ennuyant, et les astronomes essayaient d'observer, de trouver des périodes plus larges qui pourraient mettre en phase, si je puis dire, le Soleil et la Lune. Or, une de ces périodes qui avait été observée, encore une fois, par les Babyloniens, a été systématisée au 5e siècle avant notre ère par l'astronome athénien Méton. C'est une période qui dure 19 ans. Alors, Méton avait aussi observé qu'en 19 ans, on a très exactement, ou presque très exactement, si je puis dire, 235 mois synodiques, mois lunaires. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la Lune et le Soleil sont dans des positions bien précises dans le ciel et l'une par rapport à l'autre, vous retrouverez cette même configuration 19 ans après. Donc, vous pouvez faire un grand calendrier, une période de 19 ans. D'ailleurs, c'était le premier nom, c'était le calendrier de 19 ans, ça fait un mot en grec, et qui repartira cycliquement d'une manière assez normale, sans grand décalage. Ce calendrier, en fait, alors, juste avant, il a été affiné par un autre astronome, je crois 150 ans environ plus tard, Calippe, qui a dit qu'il y a une période plus exacte pour mettre en phase le Soleil et la Lune, c'est 4 fois 19 ans, donc 76 ans, moins un jour. Et sur la machine d'Anticythère, on retrouve le calendrier de Méton et très probablement la correction de Calippe sur 4 fois la période de Méton. Vous verrez pourquoi après. Et puis, il y a encore une fois l'Olympiade, 4 ans, comme de nos jours, évidemment, puisque le baron de Coubertin a repris la période antique. Et puis en bas, vous le savez déjà, on en a parlé, il y a des symboles, drôles de symboles qui, en fait, sont des prévisions d'éclipses. On verra le détail tout de suite après. Et voilà le fragment correspondant. Alors, voici donc, je passe en détail un peu, mais en vitesse aussi, en revue. Voici le fragment avec et la transcription d'Agamemnon Tselikas, notre philologue de l'équipe. Énorme œuvre ici. Il a failli perdre un œil là dans cette histoire, parce qu'en fait, il faut voir ces images au scanner. Et il a passé des nuits et des nuits à voir les tranches de 10 microns pour essayer de reconstituer des lettres qui sont des traces, en fait. C'est des fantômes. Là où on voit un lambda, ça peut être un alpha ou parfois même autre chose. Et il y a plusieurs combinaisons pour refaire. On peut facilement, avoir 3 ou 4 versions différentes des mêmes symboles, des mêmes caractères. Trois personnes différentes et même la même personne relira 2 ou 3 fois et aura 2 ou 3 versions différentes. Donc c'est très difficile et nous sommes en train d'affiner cette lecture qui est absolument, c'est exceptionnel. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des nombres, et des nombres qui se réfèrent aux planètes. Voici les fragments qui reconstituent le paraquet. PEGM, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a assez pour refaire toute la séquence. Et au centre... et voici donc, je reviens sur ce fragment, là, tout petit fragment, il a cette taille. Donc ici, les lettres ont 1,4 environ millimètres de hauteur. Et vous voyez 19, 76 et 223. Alors 223, je ne vous en ai pas encore parlé, mais 19 c'est Méton et 76 c'est Calippe. Et il y a différents autres d'autres mots qui sont très intéressants ici, mais on va passer dessus. Et voici, sur un autre fragment, le fragment, et ça c'est une image du scanner, la réponse à Michael Wright en 2005, plus encore un indice. Ah, voici la transcription d'Agamemnon, ici. Ça s'est fait, là, une nuit à Athènes. Donc, nous lisons ceci. Alors, je vous lis là. Premier mot, c'est spirale, section 235, sigma, lambda, epsilon. Donc, comme ça, d'un seul coup, nous avions eu la révélation que Michael Wright avait raison, il y avait vraiment des spirales sur la machine, et qu'une des spirales était divisée en 235 sections. Or, 235, c'est très exactement le nombre de mois synodiques qu'il y a dans les 19 ans. Voici. Et puis après, il y a différentes autres indications calendaires. Par exemple, ici, dans l'encadré, il y a les 20 et quelques jours à exclure. En fait, quand vous faites un cycle de Méton, il faut exclure certains jours pour arriver à se caler exactement sur les bonnes périodes. Voilà pour les calendriers. Et ici, ce que les élèves, M. Rebuchon, vous ont montré tout à l'heure, il y a le mécanisme le plus complexe de la machine d'Anticythère, c'est le mécanisme qui reproduit le mouvement de la Lune, le mouvement apparent de la Lune, tel que vu de la Terre. La Lune, et on l'a entendu aussi au planétarium, a un mouvement totalement irrégulier, avec des allers-retours, etc., mais aussi on a l'impression qu'elle accélère et qu'elle freine, que son mouvement n'est pas du tout régulier. Et évidemment, on le sait maintenant, c'est dû à son orbite elliptique. Ce n'est pas une orbite circulaire. Et alors, le premier astronome connu à avoir formulé une théorie sur ce mouvement était Hipparque. Donc, deuxième siècle avant notre ère, à l'époque, plus ou moins à l'époque, à laquelle on pense que le mécanisme d'Anticythère a été conçu et fabriqué. Et pour représenter ce mouvement de la Lune, il fallait inventer un mécanisme d'engrenage qui permette d'accélérer et de retarder un mouvement par ailleurs régulier. Et ce mouvement est réalisé grâce à ce jeu de... Il y a 4 roues dentées ici avec une fente et une aiguille. Et les roues s'écartent et se rapprochent de manière à accélérer et décélérer. Vous le verrez après sur le modèle en plexiglas. Et c'est les 4 roues, je vous montrerai, qui sont à l'arrière de la machine. Et des 4 roues qui sont à l'arrière de la machine, il y a un axe qui part et qui revient à l'avant pour montrer le mouvement de la Lune. Voici les calculs. Tout est publié. Vous pouvez, pour ceux qui sont assez hardis pour entrer dans ce genre de calcul, ce sont nos collègues mathématiciens qui l'ont fait. Et voici donc la reconstitution de la face arrière avec les 2 spirales. Le cadran de l'Olympiade ici, de Calippe, Méton, avec les 235 mois, et l'autre cadran en bas, on en parlera tout de suite après. Mais alors, la question c'est, est-ce que j'ai là encore un petit quart d'heure?
Oui, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, donc on a le concert à la cathédrale à 18h, donc précise, oui, un quart d'heure.
D'accord, parfait. Alors là, je vais aller très vite. Je vous ai dit 2 ou 3 fois, il y a des spirales, mais pourquoi y a-t-il des spirales? Bon, d'abord parce que le constructeur nous l'a dit et écrit. Il y a une spirale qui a 235 divisions, là voilà, c'est celle-ci. Mais en fait, si on regarde, alors ce qui est bien avec les scans 3D, c'est qu'on est vraiment en 3D, donc on prend ici une coupe de la spirale et on fonce dedans et voilà la spirale, et il y a quelque chose de bloqué dedans, en fait, dans la spirale, quelque chose qui est coincé, voilà, sous un autre angle, et ce qui est coincé, voilà, voici une reconstruction, c'est comme l'aiguille d'une platine tourne-disque, hein, pour les plus anciens. Alors voilà, la spirale et l'aiguille qui est fichée dedans, en fait, c'est un système coulissant qui est guidé donc par la spirale et qui permet d'indiquer avec précision sur quel mois nous nous trouvons. Alors, ici, alors, que puis-je vous dire ? Écoutez, je vous ai dit 10 fois le mot Olympiade, je vais en parler un peu. C'était aussi un calendrier, enfin, c'est pas un calendrier, mais c'était des repères temporelles très importantes dans l'Antiquité, les Olympiades, tous les 4 ans. Et ici, vous avez année, le L, c'est le symbole pour l'année. Année 1, 2, 3 et 4. Et vous avez les jeux, des jeux très importants qui se passaient, les jeux isthmiques à Corinthe, les jeux à Olympie, donc les jeux olympiques, les jeux à Némée, les jeux à Dodone, le grand sanctuaire de la Grèce du Nord-Ouest. Les jeux isthmiques, encore une fois, ceux-là étaient tous les 2 ans. Les jeux pythiques à Delphes, encore une fois les jeux à Némée, et puis ici, alors cette image date un peu, ici nous avons découvert l'année dernière qu'il y avait une autre, on savait qu'il y avait une inscription, on n'arrivait pas à la lire, mais avec des machines plus puissantes, on est arrivé à lire les jeux halliques de Rhodes. Donc ici le constructeur avait noté certains des jeux les plus importants pour le monde antique, mais peut-être aussi pour le fabricant ou le client de la machine. On verra à la fin que, en fait, en cherchant un peu le constructeur, on est écartelé entre l'Est, Alexandrie et Rhodes aussi, et jusqu'à l'Ouest, jusqu'à l'Italie du Sud. Et ce sont des indices très importants, ainsi que le calendrier. Si jamais on a du temps pour la discussion, on vous en parlera. Voici ici le scan qui donne. Et voici ici, c'était les traces de Alia. Une fausse transcription ici. Voici les traces du calendrier. On a eu la chance d'avoir les 12 mois, ce qui est très rare pour des calendriers antiques. Et alors ici, je voulais juste vous montrer un lever de soleil sur le site du naufrage pour discuter un peu de ces problèmes de calendrier, de position, parce que le soleil s'était pris un 19 août. Si vous revenez à 19 août, vous retrouverez le soleil à la même place, mais pas la lune. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais si on a le temps, on pourra en discuter après. Voici le cadran donc, du bas, et nous arrivons donc aux éclipses. Vous voyez, il y a ici encore une fois des cases, et ces cases sont très exactement au nombre de 223. Alors, le 223, c'était le nombre qu'on avait vu, je ne vous avais pas expliqué d'où il provenait. Nous n'avons pas la totalité de cette spirale, mais les cases qui sont, je vous montrerai les fragments, l'évidence. Si vous faites un calcul mathématique assez simple, il ne peut y avoir que 223 cases. Et donc, ces 223 cases, s'il y a parmi vous des astronomes amateurs et même professionnels, ça fait tout de suite tilt. C'est une période très connue de récurrence des éclipses. Si vous avez aujourd'hui une éclipse, il y en aura une autre 223 mois après. Des mois, toujours des mois synodiques, des mois lunaires. Alors, comme ça, vous pouvez vous débrouiller dans des situations très difficiles. Et c'était très important, bien évidemment, hein, celui qui pouvait prévoir les éclipses, il possédait un pouvoir énorme. Donc, voici une des clés du mystère de ces éclipses. Alors, vous voyez, c'est un caillou, hein, il n'est pas très grand. Il a été découvert par l'archéologue Mary Zafiropoulou un peu avant notre recherche, dans une des boîtes d'Anticythère. Et le voici donc, rayon X. Vous voyez, il y a une part de spirale qui apparaît, des inscriptions et des cases. Encore des inscriptions. Et voilà le grand fragment avec la roue vue arrière, gros plan. C'est à peu près la même configuration. En fait, le petit fragment d'avant, il va en bas, c'est la continuation de celui-ci, on le sait très précisément maintenant. Et donc, vous voyez, il y a des cases avec inscription et des cases sans inscription. Les cases sans inscription, ce n'est pas qu'il y ait une erreur ou qu'elles aient été effacées, c'est tout simplement c'est des mois où il ne se passe rien. Alors, et là où il y a une inscription, il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va recenser toutes les inscriptions. Alors, celles qui existent, qui sont lisibles de nos jours. Voilà, on numérote donc de 1 à 223 toutes les cases. On fait un peu de Photoshop ici pour lire. Et alors, vous verrez, on va très vite. Ici, il y a une répétition de symboles. Et tout simplement, c'est pas évident, mais on y est arrivé. Ça a l'air très simple maintenant. C'est l'œuf de Coulomb. Sigma, c'est Céline, c'est la Lune. Ita, le H, c'est Hélios, le Soleil. Et puis, il y a ce symbole-là qui est en forme d'encre, peut-être. C'est Oméga Rho, et c'est Aura, tout simplement, ou horoscope, vous pourriez dire. C'est l'heure. Et ces symboles-là nous disent, ils sont dans des mois, donc. Et donc, quand votre aiguille, là, qui est guidée par la spirale, tombe sur un mois avec inscription, vous pouvez lire s'il y a une éclipse de soleil ou de lune, à quelle heure elle aura lieu. Pas la date. Attention. Vous connaissez le mois et l'heure, mais pas la date. Le jour, je veux dire. Donc, vous n'avez pas la date précise. Pour la date précise, il y a un truc. Et il y a aussi des index en bas. Vous voyez des petites lettres ici, en bas. Ça, ce sont des regroupements d'éclipses par catégorie. C'est un travail qui n'a pas encore été publié, mais qui va être publié courant 2014 et qui est très intéressant. Pour ceux qui seraient intéressés, je peux leur dire après. Et voici donc le cadran reconstitué avec toutes les éclipses. Donc, quand vous tournez votre manivelle et vous allez sur un mois, vous pouvez savoir si vous êtes sur un mois à éclipse. Et pour avoir le jour, en fait, il suffit de bouger très peu la manivelle de façon à ce que sur le cadran avant, la Lune et le Soleil soient soit en opposition, soit en phase. Et là, vous lisez sur le calendrier égyptien le jour, parce qu'il y a les 365 jours. Pour le jour de décalage tous les 4 ans, vous enlevez le cadran et vous l'avancez d'un cran, parce qu'il y a en fait des petits trous qui permettent de gagner un jour tous les 4 ans. Alors, là, on a une somme là, de connaissances, et on se dit, bon, qui est celui qui a construit, qui a conçu cet objet. Alors, il y a du monde. Vous voyez, alors, avant et après. Alors, ce qui est en blanc, c'est à peu près à l'époque d'Anticythère. On arrive jusqu'au naufrage, à peu près. Hipparque. Alors, Hipparque, ça tombe bien, et Posidonios, qui est juste après, le mécanicien de génie, ils ont tous les deux vécu à Rhodes. Géminos. Alors, c'est quelqu'un d'assez génial parce que c'est un vulgarisateur de la science et qui a écrit un livre qui a une magnifique traduction française de Germaine Aujac, aux belles lettres, l'introduction au phénomène, et c'est une somme des connaissances astronomiques de l'époque. Alors, quand vous lisez ce livre, vous avez l'impression d'avoir un manuel de la machine d'Anticythère, enfin, de toutes les connaissances qui sont sur la machine d'Anticythère. Les phénomènes, donc tout ce qu'on peut voir autour de la Terre. Monde sublunaire compris, donc phénomène astronomique, comète, etc. Enfin, comète. La chasse est ouverte. À un moment, en 2008, en voyant le calendrier antique, nous nous sommes dit, ah, c'est peut-être Archimède qui est dans le coup, pas directement. Alors, pourquoi? Parce que les calendriers antiques, en fait, dans les cités grecques, chaque cité avec son propre calendrier, avec ses propres noms de mois, et souvent le même nom de mois était à des ordres différents. Donc quand vous avez un calendrier, c'est un peu comme une signature de la cité dans laquelle il était utilisé. Et les épigraphistes nous disent que le calendrier d'Anticythère est en fait le calendrier soit de Corinthe, soit d'une des colonies de Corinthe. Alors des colonies de Corinthe, il y en a beaucoup. Et il y en a surtout dans la Grèce, le monde hellénique occidental. Oui, c'est ça. Donc, en Grèce actuellement, en termes modernes, donc Grèce du Nord-Ouest, Albanie du Sud, et puis Corfou et Italie du Sud. Évidemment, et comme certains mois concordaient assez bien avec le calendrier de l'antique Tauromenion, qui est la moderne Taormina, colonie de Syracuse, colonie de la colonie, donc. Et c'est un peu comme ça que nous nous sommes imaginés que peut-être des élèves d'Archimède ou quelqu'un qui avait été formé par Archimède avait continué donc la tradition du maître, car on sait par les textes que Archimède fabriquait ce genre de machine. Mais il y a cette histoire de Rhodes là qui remet tout en, qui redistribue les cartes en fait, plus le fait que c'est pas exactement le calendrier de Toromenion. Il y a des recherches un peu plus poussées qui ont été faites depuis, et notre collaborateur Paul Iversen, un Américain qui travaille à Athènes, qui va publier un article l'année prochaine. Et là, on en saura plus. Donc, vous pouvez tous participer à cette chasse aux constructeurs d'anticitaires qui est ouverte. Il y a peut-être des textes qui ne sont pas encore connus. Ce qu'on sait, par contre, c'est que souvent, il y a les sceptiques qui nous disent « Oui, bon, alors cette histoire d'engrenage, c'est complètement farfelu. » Alors déjà, deux réponses. Un, on sait qu'il y avait des engrenages petits. On en a retrouvé un en Sardaigne, dans les fouilles à Olbia. Cette, une roue dentée qui est exposée au musée d'Olbia à Sardaigne. Mais aussi, il y a ce texte d'un pseudo-Aristote, qui était peut-être Aristote, donc quand même quelques siècles avant Anticitère, qui explique assez bien, alors là, ici, c'est en grec ancien, mais qui explique comment on peut transporter par friction un mouvement et démultiplier aussi, et fabriquer des machines dans des temples un peu comme, qui font comme des miracles, donc quelque chose qui bouge d'un côté, quelque chose qui bouge de l'autre côté, d'une manière invisible. Le plan ici, c'était, bon, juste pour discuter un peu de l'Est, de l'Ouest, et mettre, nous avons rapporté sur ce plan toutes les villes qui sont importantes pour l'histoire d'Anticitère, vous pouvez le retrouver dans l'article de 2008, tout est en ligne dans, sur le site de recherche de l'équipe d'Anticitère, qui très vite va être traduit en français, c'est surtout en anglais et en grec. Et puis, pour clore, je voulais clore avec, j'ai quand même commencé avec les modèles d'Anticitère, clore avec deux modèles modernes, la montre qui a été conçue et fabriquée chez Hublot à Genève, donc par mon collègue et ami Mathias Butet. Ça, alors la machine d'Anticitère fait 30 cm de haut, celle-ci fait 3 cm de haut, mais il y a toutes les fonctions d'Anticitère, face avant, face arrière. Ce mouvement-là est exposé au Musée des Arts et Métiers à Paris, au début du parcours des expositions du musée. Il y en a un autre à Athènes, au Musée archéologique. Alors le musée d'Athènes a demandé à avoir cette montre. C'est exceptionnel parce qu'elle est exposée maintenant et jusqu'au mois de janvier avec tout le naufrage, tous les objets du naufrage d'Anticitère. Et puis, le modèle le plus moderne, il est exposé ici. C'est celui donc, des collèges. Et ben voilà, c'est tout. Merci.
Donc, merci Yanis. Donc on a un quart d'heure pour débattre, hein, parce qu'après on a rendez-vous à la cathédrale pour un concert avec Dominique Proust, qui est astrophysicien et organiste.
Il n'y a pas de questions. Peut-être Monsieur Rebuchon aussi voudrait venir hier au. Non, parce qu'on avait eu cet échange hier à la web conférence. Si.
Donc, Éric Rebuchon est l'enseignant qui a coordonné la réalisation par les élèves des collèges de Chauvigny et Lille-Jourdain de la réalisation de la dernière machine qu'on a vue.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai fait exprès de finir sur les deux modèles, car quand on s'attable, on commence à faire un modèle d'Anticitère, en étant donc un ingénieur moderne, que ce soit Mathias Butet ou Éric Rebuchon, on se pose des tas de questions sur comment ça a été fabriqué il y a 2000 ans. Et ces questions sont en fait très importantes pour nous autres. Moi, je parle en tant qu'historien des sciences maintenant. Et il y a des échanges qui sont très fructueux.
Bon, alors je vais lancer quelques questions. Effectivement, ce sont des questions qui sont venues également pour nous. Est-ce qu'on a des idées par rapport justement à ce que le passage de l'écrit des Grecs à la conception même de la machine? Est-ce qu'on a quelques idées? Ils ont une observation, ils la notent, et on arrive à construire une machine. Donc, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils sont passés de la théorie à la pratique.
Oui, mais c'est justement, c'est là où moi, je ne peux pas encore vous répondre. Car ce qui est exceptionnel dans la machine d'antécitaire, c'est que si vous prenez tous les éléments à part, il n'y a rien d'exceptionnel. La technique pour graver les tout petits, etc., les joailliers faisaient bien mieux. Les trains d'engrenage, ils les connaissaient. Il y avait des tas d'autres objets qui avaient été fabriqués. Il y avait aussi les leviers, les poulies, enfin, il y avait toute une histoire des techniques qui est assez bien documentée. Le corpus astronomique, je vous ai parlé de Géminos, absolument maîtrisé. Donc, il n'y a aucune surprise ici. La surprise, c'est justement d'avoir pensé à modéliser toutes les théories de l'époque. Et c'était très contemporain, parce qu'on sait que la machine est très proche d'Hipparque. Donc, il y a une théorie sur le mouvement de la Lune, et 10, 20, 30 ans après, hop, il y a une machine qui apparaît, et cette théorie est représentée. Et donc, ça vient... Vous avez des analogies. Oui.
Par rapport à la disparition ?
Pour la disparition, après, oui, on en parlera. Bon, c'est vrai qu'on a des textes. Là, quand je vous ai mis la liste des noms là, antiques, on retrouve des textes qui décrivent ce genre de machine. Et évidemment, on a l'impression, à lire ces textes, qui sont les seuls, ou presque peut-être les seuls à être parvenus et copiés jusqu'à nos jours, que ce genre de machine était faite pour épater la galerie, un peu comme des objets de démonstration qui n'étaient pas vraiment utiles. Et il y a pendant des siècles, on a répété que les Grecs, en fait, ils s'en foutaient un peu de ça, c'était du luxe. Ce qui était vraiment important, c'était la philosophie pure et la pratique, les techniques, tout ça, c'était de la basse besogne. Or, en fait, la machine d'antécitaire nous oblige à repenser tout ça et justement à repenser aussi, à penser sur ce qu'il y a eu après. Et c'est là où hier, vous avez fait cette remarque, parce qu'on nous dit souvent, écoutez, les sceptiques, ce genre de machine, c'est à partir du XIVe siècle, surtout XVIe, XVIIe. D'ailleurs, elle ressemble fortement à des machines du XVIe, XVIIe siècle qui sont comme ça, planes. Donc, ça ne peut pas être antique. C'est un escroc qui a fabriqué ça et qui l'a balancé dans la mer. Non, mais c'est réellement, on lit ce genre d'argument, et pourquoi pas, je veux dire. Mais bon, ça ne résiste pas à un examen plus poussé des données. Mais il y a quand même un espace, plusieurs siècles, où on a l'impression qu'il n'y a rien eu. En fait, il y a eu des choses, mais pas ce genre de choses. Et là, alors, ça semble tellement singulier, mais ce n'est pas singulier, c'est ce que Eric nous a dit hier.
Oui, parce qu'on s'est posé les mêmes questions. Pourquoi, en fait, on a 15 siècles pratiquement sans rien, quoi. On a une machine qui se perd et on retrouve qu'à la Renaissance, qu'au début de la Renaissance, au XIIIe, XIVe siècle. Et effectivement, il y a une analogie qui nous est venue, c'est-à-dire que quand on regarde ce qu'ont fait les Romains, l'Empire romain jusqu'au Ve siècle, par exemple, les grands stades, les grands théâtres, ouais, ça disparaît aussi. Donc, parce qu'on a étudié également les contre-arguments, ceux qui nous disent c'est un faux. Donc, on cherche également, bien sûr, à argumenter à l'opposé pour dire ben, oui, ça a disparu, mais ça n'a pas disparu parce que, a priori, c'était un faux. Non, il y a plein de choses qui ont disparu également. Et ce qu'ont fait les Romains, je ne vois pas, moi, au Moyen-Âge, de grands stades, de grands théâtres. Pourtant, les Romains ont su faire des choses grandioses au niveau architectural, mais ça disparaît. Alors pourquoi ? On a le même phénomène, pourquoi ? Ça peut être une analogie, effectivement.
Oui ?
Moi, ce que je trouve impressionnant...
Attendez, juste le micro, oui.
Merci. Ce que je trouve impressionnant, c'est la fabrication des engrenages et de toutes ces roues dentées. On a fait un peu de technologie, de mécanique. Est-ce que Est-ce qu'on a une idée à quelle époque remonte la fabrication d'engrenages?
Ah, alors, en bois...
Les Égyptiens, bronze, les...
Peut-être.
Les Sumériens, les...
Alors, le texte là, du pseudo-Aristote, ce n'est pas encore des engrenages, mais c'est le 4e siècle avant notre ère.
Okay.
Maintenant, des engrenages primitifs, des grosses roues qui s'engrènent,
oui.
Dentées,
oui.
Peut-être que pour les puits, par exemple,
oui,
ou autre
oui,
chose,
oui.
On peut remonter.
Oui, oui. Non, ce n'est oui. Pas le principe, c'est la réalisation, c'est la fabrication.
La taille.
C'est la taille, et oui. Bon, le nombre, la taille, et pour que ça fonctionne, que 30 roues, une trentaine, combien avez-vous dit?
Une trentaine qui sont
oui.
Sauvées. Le
oui.
Reste, parce qu'il faut en rajouter pour
oui.
Faire fonctionner
oui.
La machine.
Alors justement,
oui.
Ça c'est...
Oui.
Pour moi, c'est une grosse
oui.
Question.
Oui, donc bon. Apparemment, à l'époque d'Antistère, on n'en était pas à notre coup d'essai. Il y avait eu...
Sûrement.
Sûrement, oui. C'est tellement complexe que même on se demande s'il n'y a pas plusieurs générations.
Oui.
Oui.
Il n'y a pas eu de...
Voilà.
Oui.
Alors donc, justement, et là c'est intéressant, parce qu'en fait, je vous ai parlé d'Archimède. Donc Archimède... Était, entre autres, hein, un fabricant de sphères, sphéropios
oui.
En grec.
Oui, oui.
Et donc, ces sphères s'entendent de deux façons, soit des globes, donc des vraies sphères, ou même cet objet s'apparente à une sphère, mais une projection de sphère, donc, sur un plan. Et notre ami, le confrère Michael Wright, que je vous ai montré, là, qui a commencé dans les années 80, a en fait fabriqué une sphère d'Archimède, là, il y a quelques mois, toujours en utilisant les mêmes outils, etc., à la manière d'eux, en essayant de deviner, de se mettre un peu dans la pensée d'un Archimède. Et le résultat est surprenant. En fait, on a une sphère de cette taille environ, et on peut la tourner comme ça, un peu comme le truc en plastique que je vous ai montré, et il y a des aiguilles de planètes qui tournent ouais. Tout autour. Et tout ça dans un objet en trois dimensions. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même... deux générations avant Antistère,
oui.
Et décrit par Cicéron, je crois. Oui.
Oui,
mais les traces ne se trouvent que dans des textes. Il n'y a aucun objet.
Oui. Ok.
C'est
on,
ça le problème.
On se rend compte.
Oui.
On connaît, on peut connaître l'habileté des artisans en regardant les bijoux, par exemple. Il y a des bijoux qui sont
voilà.
Faits, qui
oui.
Sont, c'est fantastique. Mais enfin. Un engrenage, ça,
oui.
Ça répond à des caractéristiques géométriques précises, très précises, si vous voulez.
Oui.
C'est pas comme un bijou. Quoi.
Oui. Alors, non, mais alors, dans l'engrenage, il y a cette idée de rapport.
Oui.
On le dit aussi, on dit rapport d'engrenage, enfin, tout est fondé là-dessus, sur donc, le rapport de nombre dedans. Si, par exemple, vous avez un engrenage... une roue de 100 dents qui s'engraine sur une de 50, celle de 50 tournera deux fois plus vite. Et donc, il faut penser qu'à l'époque d'Antistère, les gens fonctionnaient par rapport, tout le temps, et par géométrie aussi, et analogie et tout. Donc, il y a eu à un moment, il y a eu un bond, quelqu'un qui s'est dit, je vais utiliser ceci pour reproduire des rapports. Et si vous voyez un peu... le calcul de train d'engrenage pour arriver, donc, par exemple, à reproduire ce rapport lunisolaire, c'est exceptionnel.
Mmh.
Oui.
Oui,
nous avons le détail donc, dans les articles, la série
oui.
De multiplications faites sur du sable, hein, je veux dire.
Oui.
Oui. Et c'est là où on se rend compte, il faut relire des textes d'époque pour voir un peu comment penser... Les mathématiciens, donc.
Okay. Oui, parce oui. Il faut avoir quand même des machines, des machines avant, quoi, où
oui.
On a évolué au fur et à mesure pour arriver à cette machine-là.
C'est certain.
Je prends l'exemple de la voiture. Hein, la voiture de 1900 n'est pas la même qu'aujourd'hui, quoi.
Oui.
Et pourtant, ils avaient quatre roues, un volant, quoi.
Oui, il y a des objets en commun, enfin voilà. Des fonctions, mais... Oui.
Des fonctions, mais on a évolué, quoi. Donc,
oui.
Et c'est bizarre qu'on n'a pas trouvé quoi que ce soit de cette évolution-là, quoi.
D'accord. Alors ça, oui, je vous ai dit que les seules traces sont dans les textes.
Oui.
Alors, pourquoi nous ne l'avons pas trouvé? C'est qu'en fait, ce genre d'objet, et Antistère aussi, tombait très rapidement en panne déjà. et était d'une certaine façon inutile. Et comme c'était en métal, très facilement ça pouvait être fondu, recyclé pour faire autre chose. Et c'est sûr, on le sait par les textes, que ce genre d'objet était systématiquement recyclé. Et donc, paradoxalement, cet objet a été sauvé car il a fait naufrage. C'est pour ça que... Alors, on espère... Je veux simplement vous dire un truc, parce que ça date d'hier. Hier, on a replongé à Anticythère. C'est l'équipe dont je vous parlais, gréco-canadienne, et il paraît qu'il y a des découvertes très intéressantes qui vont être... Alors, je n'en sais rien, hein, je ne vous cache rien. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, peut-être qu'on va retrouver le morceau manquant. Hein, et il le cherche, hein, c'est sûr.
Mais comment on est arrivé à faire aussi une petite coupe, quoi. On sait qu'on peut faire un modèle.
Ah, alors,
un prototype plus grand, quoi, et avant d'arriver à...
Alors, peut-être, mais justement, alors là, je pense que peut-être vous pouvez redonner le micro à M. Robuchon. Parce que la question, c'est pourquoi si petit ? Alors, en fait, il y a une réponse d'échelle qui est très importante. Parce qu'il y a un problème. Allez-y.
Oui, par rapport au taillage, à la taille des dents, effectivement, parce que ce sont des dents triangulaires. Donc, le contre-argument, c'est des dents triangulaires à grande échelle, il y a en fait collision. Hein, des dents sont en développement de cercle, donc c'est bien particulier de toute façon à ce que ça s'engraine parfaitement. Et donc, mais en fait, ça dépend de l'échelle. Donc nous, on travaille à un millimètre, sur ma machine au collège, c'est un millimètre. Donc en fait, les dents font un millimètre. Elles sont pratiquement triangulaires, mais la machine fonctionne parfaitement. Il y a quand même 36 engrenages, donc ça crée des frictions, il y a des contraintes, et malgré tout, ça tourne quand même assez librement. Et moi, je me suis rendu compte, en regardant cet argument-là, qu'effectivement, à échelle réduite, forcément, la développante de cercle n'existe pratiquement plus. Et même avec des dents triangulaires, ça fonctionne. Alors, d'autant plus à l'échelle de la machine originale, qui est donc plus petite que la nôtre, qui doit fonctionner, je dirais, encore mieux. Il n'y a pas de problème de collision dû à ces dents triangulaires. Ça, c'était la grosse question quand j'ai lu également ces arguments-là. On s'est posé la question. J'ai revérifié mes engrenages à ce moment-là. Et je me suis dit, ça fonctionne pour la nôtre. Donc, a fortiori, ça fonctionnait pour la machine plus petite. Ce qui va contrer l'argument des dents triangulaires, évidemment. Et on peut le prouver puisque la nôtre fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Et il y a peut-être une dernière question. On a le temps ou... Oui, oui. Alors, mais pour l'instant, plus tard, c'est le 11e siècle, la machine de Su Song, qui est machine hydraulique avec représentation des mouvements des planètes et pas mal de choses, qui est d'ailleurs reconstruite, qui a été reconstruite, qui est merveilleuse aussi. Mais c'est en grand, hein. Oui.
Je suis désolé d'interrompre le débat, mais on a un timing à tenir. Voilà. Merci, Yanis. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre la cathédrale où le concert va débuter. Merci.